l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Aujourd'hui, un retour vers le passé, vers un sujet qu'on a déjà exploré mais il y a plusieurs mois, donc on va se tenir un petit peu au courant, grâce à notre partenaire, le Centre départemental d'archéologie, dont les archéologues viennent partager leurs découvertes au micro de cette radio. Et il y aura surtout la découverte d'un autre chantier dont on n'a jamais parlé. Donc aujourd'hui, c'est un médiéviste, Johan Dieu, qui vient nous reparler de ces deux chantiers, les fouilles préventives qui avait eu lieu avant les travaux de la départementale 770 à Kerfel-Garbillon, j'ai réussi à le prononcer, du côté de Ploudaniel. Et puis il nous racontera aussi et surtout donc ce qui lui a révélé une autre route, enfin plutôt un lotissement plus au sud, le long de la route de Poulpris à Bénodet. Bonjour Johan Dieu.
Bonjour.
Alors on va commencer par la D770, on ne va pas s'y attarder. Et on en avait parlé déjà avec Anne Kergourlet, également archéologue. Alors ce tronçon qui vous concerne, Johan, forcément on y a trouvé des traces de Moyen-Âge.
Effectivement, oui. Mais
alors,
pas
de,
que.
Ouais, de quelle période déjà
On est ce qu'on appelle au Haut Moyen-Âge, et plus particulièrement entre le 6e et le 12e siècle.
D'accord, donc c'est le début. Quoi.
Voilà, le début du Moyen-Âge.
Et alors, qu'est-ce qu'on a trouvé à Ploudaniel, Kerfel-Garbillon, c'est sur la commune de Ploudaniel?
C'est sur la commune de Ploudaniel, oui, qui est très étendue, en fait, qui englobe quasiment la totalité de la RD 770. Et donc, pour le Moyen-Âge, on a retrouvé donc, un énorme fossé d'enclos, donc, qui fait 2 mètres de large, enfin à l'ouverture, et quasiment 2 mètres de profondeur. À l'intérieur duquel, en fait, on a retrouvé également 2 bâtiments semi-excavés, donc ce qu'on appelle communément, nous, des fonds de cabane. Donc, il faut imaginer des fosses, en fait, voilà,
ouais,
creusées
ça,
dans
ouais.
le sol.
On retrouve que les trous, en général.
C'est
hein,
ça. En fait, c'est des constructions en matériaux périssables. Donc,
quand on dit cabane, c'est parce que c'était en bois, c'est pas parce que
C'est plus ouais, une façon de parler que,
ouais, bien sûr,
qu'une
ouais.
réelle cabane, mais...
Et quand on dit excavé, ça veut dire, ça sous-entend qu'il y avait une cave ou pas?
Non, c'est juste creusé dans le sol.
Okay.
Voilà, c'est juste qu'on n'est pas sur un niveau de circulation à la même altitude que le reste autour.
Et donc, le fossé, l'enclos, il faisait à peu près combien de mètres carrés en gros?
Alors le problème, c'est que, donc c'est les inconvénients de l'archéologie préventive, c'est qu'on est limité par le projet lui-même. Donc là, c'est un tracé routier. Donc c'est un tracé qui est, du coup, l'emprise de fouille est très longue, mais très peu large. Et donc, j'ai une portion de fossé qui fait jusqu'à 125 mètres de long, ce qui est relativement conséquent.
Ah oui. Et les bâtiments excavés, ils étaient grands?
Les bâtiments excavés, ils font quasiment du 4 par 3, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est donc, pas énorme, là, pour le coup. Et donc, les suppositions, ça serait que ça serait... Ah, pour les bâtiments, ça serait quoi? Du stockage
Ah, les bâtiments, c'est de l'habitat.
Ah oui,
ouais,
d'accord.
Ouais. 4 par 3, ça commence déjà à faire des...
D'accord. Au Moyen-Âge, c'était comme ça.
Voilà, sachant que c'est que l'excavation. Après, voilà, on a potentiellement d'autres... Enfin, la toiture n'est pas forcément... Et peut-être plus large, en fait.
Ah oui, il peut y avoir une avancée,
voilà,
une
exactement.
Sorte de véranda.
Enfin bon. Pour reprendre les termes, oui.
C'est ça, le terme est anachronique. Mais...
C'est ça.
Ok, d'accord. Et donc, vous, même par vue aérienne ou par LIDAR, vous n'avez pas idée de l'ensemble, en fait, de la surface de l'ensemble du site, en fait.
Pas du tout. Et en plus, donc, généralement, ce genre de fossé assez important, ça laisse une trace dans le paysage actuel, ne serait-ce que dans le parcellaire. Et là, c'est... pas le cas du tout. C'est-à-dire que sur toutes les photos aériennes que j'ai pu regarder, hein, des années 42 jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune trace de ce fossé. Voilà, donc c'était vraiment l'inconnu et la découverte de ce site.
Mais ça serait forcément un enclos et ça ne pourrait pas être un mur, juste
Ben c'est toute la question et toute la difficulté de la définition de ce genre de structure, surtout avec une fenêtre aussi... peu réduite, en fait. C'est que je ne sais pas vraiment sur quoi on est en termes de définition. Je sais que j'ai un fossé qui enclôt une zone à l'intérieur duquel j'ai de l'habitat, des puits et puis quelques petites fosses probablement artisanales. Mais je ne sais pas si je suis sur un fossé de basse-cour, Je ne pense pas. Je ne pense pas que je sois non plus sur une motte ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est plutôt ce que j'appellerais un hameau ou un village, donc défendu par un fossé.
Il y avait déjà des hameaux fortifiés, enfin sans que ça soit des mottes castrales justement, ou des sans qu'il y ait des châteaux.
Ben, c'est tout l'intérêt des sites qu'il y a le long de la RD 770. En fait, quand on regarde la carte archéologique de ce secteur, donc qui va de Landerneau à l'Esnevin, hein, même un peu plus haut. On se rend compte qu'il y a énormément d'établissements fortifiés, donc que ce soit donc, ce genre d'enclos avec des fossés quand même importants. On a énormément de mottes.
Là, il y a des petits châteaux.
Voilà, on a des petits châteaux. Donc, une plutôt bien conservée, plutôt à Plabennec, hein, qui est un peu plus au nord. Et donc, d'autres qui ont été détruites par les aménagements de nos époques actuelles.
Oui. Et donc ça laisse supposer une ambiance enfin troublée peut-être ou enfin.
Bah on est entre deux villes du Léon médiéval qui sont importantes. On est aussi à la frontière entre deux pagis du Léon médiéval à une époque où oui sensiblement il y a peut-être quelques petites tensions entre voisins.
Et comme on est quand même sur une période historique, est-ce qu'il y a aussi des traces, des documents hein, qui nous racontent les histoires en gros de ces zones?
On a quelques textes, mais surtout pour les périodes à partir du XIe siècle. C'est beaucoup plus rare pour les périodes qui me concernent.
Et sinon, sur Ploudania, enfin sur ces fouilles de la départementale 770, fouilles préventives uniquement, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre à part le Haut Moyen-Âge?
Alors sur Kerfel-Garbillon, on a du parcellaire de l'âge du bronze. Et notamment des fossés donc, qui ont livré de la céramique, de la poterie de ces époques-là, donc âge du bronze moyen, il me semble.
Alors, redites-nous en gros la date. C'est quoi? C'est du 2000, non?
Oui, c'est ça. Ouais,
on avant Jésus-Christ, c'est ça?
On est sur du 1800-2000.
Je commence à rentrer, je suis fier de moi.
Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça fait écho à l'ancienne fouille qui a été faite donc par Stéphane Blanchet encore une fois en 2008, donc un peu plus au sud au niveau de l'échangeur en fait de l'N12 vers les RD.
Ces fouilles préventives de la DC-770, c'est terminé maintenant?
Pour l'instant, c'est terminé. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres dans le futur. Ça dépend toujours des projets d'aménagement. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'archéologie préventive. En fait, s'il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas d'archéologie préventive.
Ouais. Et parfois, l'archéologie préventive déclenche des fouilles programmées. Là, ça ne sera pas le cas pour l'instant. Il y a rien.
Ah là, non. Là, en fait, c'est même fini. Hein. C'est-à-dire que j'ai fouillé, je suis parti. Ils ont fait leur rond-point à l'endroit où voilà.
Et tout est recouvert.
Tout à fait.
Très bien. Alors ça, on était au nord du Finistère. On va descendre vraiment plus au sud. Donc là, c'est une publication qui vient juste de sortir, que vous venez juste de terminer. Ouais. Donc, on est au Poulpris, donc c'est un futur lotissement. Et vous avez fouillé, alors Poulpris à Bénodet, donc vous avez fouillé alors 2940 mètres carrés sur 4000 mètres carrés, c'est ça j'ai compris
Oui, en fait, les prescriptions en général elles sont un peu plus larges que ce qu'on ouvre. Enfin, ça dépend. Ça dépend du prescripteur déjà. Mais là, pour reprendre un peu le générique de cette opération, donc vous savez que l'archéologie préventive, ça se fait souvent en deux phases, donc une de diagnostic, l'autre de fouille. Donc il y a eu un projet de lotissement qui a été déposé. Sur l'emprise du projet, on a fait un diagnostic. Anne-Louise Amon de l'INRAP a fait un diagnostic en 2019. Et donc elle a repéré sur 4000 m2 une occupation du Moyen-Âge, donc qui était centrée autour de fosses charbonneuses. Donc,
on va parler des charbons, voilà. C'est quand même un gros truc.
À cet état-là, elle ne savait pas trop ce que c'était, donc elle pensait que c'était de l'artisanat, mais elle ne savait pas lequel. D'où la prescription de fouille en 2020.
Ça valait le coup.
Voilà, bon. Ça valait le coup.
Et parce qu'il y a peu, on connaît peu en fait ce type de, d'occupation, d'activité, c'est ça, avec beaucoup de foyers. S'il y a du charbon, c'est qu'il y a eu des feux, c'est ça. Hein.
En général, oui, c'est ça. Après, on connaît assez peu pour ces périodes-là. On le connaît très bien pour les périodes à partir du 12e, puis un peu plus moderne. Et pour les périodes plus anciennes, notamment gauloises. La métallurgie gauloise, on commence un peu avec la forêt de Pimpon, etc., à en connaître un peu. Après, il y a des sites un peu de référence comme Guavaria dans le 56, pour le Moyen-Âge, voilà, qui sont relativement importants.
Et donc, au Poulpris, c'est quelle période à peu près ?
Eh ben, au Poulpris, on est à peu près dans les mêmes périodes qu'à Ploudaniel, c'est-à-dire qu'on est au début du Moyen-Âge, mais on est plutôt centré autour de la fin du 8e siècle et le 11e siècle.
Bon, alors une surface de 2940 mètres carrés, je ne me rends pas compte, c'est une surface moyenne, c'est grand.
Pour une fouille, c'est relativement petit, j'en ai fait des beaucoup plus grandes, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même intéressant.
Et vous aviez combien de temps puisque c'était
J'avais 5 semaines.
Ouais, donc c'est vraiment très rapide quand même. Alors, à part ces contraintes-là de temps et de surface, quelles étaient les contraintes spécifiques ? Elles ont eu lieu quand déjà, exactement, la période de fouille, les 5 semaines ?
Alors, les 5 semaines, elles ont eu lieu en fin d'année 2020. Ouais. Donc décembre, enfin novembre-décembre. Ouais.
Donc des contraintes
météorologiques, en dehors de celle du Covid et du deuxième confinement. Ouais. Après, bon, à Bénodet, c'est quand même relativement clément.
Je croyais qu'il faisait toujours beau, oui, voilà.
Ouais, non, franchement, ouais, c'était. j'ai connu bien pire, ne serait-ce qu'ici au Fou, ou à Ploudaniel. Hein, ouais. Nous, on aime bien le surnommer Pluie, Daniel. Mais,
mais donc, le problème, c'était pas tellement la quantité de pluie, mais c'était la nature du terrain.
C'est la nature du terrain, ouais, qui est. En fait, le Poulpris, ça a une définition qui se rapproche du marécage. Et donc, les sols ne boient absolument pas l'eau. Ne draine pas du tout l'eau.
Et donc, c'est l'argile,
c'est argileux, c'est assez compact. Et en fait, l'eau, en fait, dès qu'il pleut, bah, ça crée des inondations sur le terrain. Et nous, comme on s'y intéresse de près et qu'on fouille souvent des petites structures, donc il faut faire attention où on marche et ce qu'on fait, parce qu'on peut très vite effacer, ne serait-ce qu'en circulant sur le chantier.
Et vous étiez obligé de drainer, comment vous faites dans ces cas-là, en fait ?
Ah bah oui, on est obligé de drainer, de trouver des zones qui sont vides, pauvres, ou qu'on a déjà fouillées, et puis bah, on est obligé de faire ce qu'on appelle des puisards. Donc en général, on fait un trou avec une mini-pelle, et puis on emmène l'eau comme ça.
Et si le sol est plus compact, c'est plus compliqué pour fouiller aussi, non, j'imagine
Ah bah plus c'est dur, oui, plus c'est compliqué. Oui, oui.
Ça demande plus d'énergie.
Ah bah oui. Ouais.
Même quand on est passé à la phase à la main, quoi. Enfin,
c'est ça, ouais. Ouais.
Parce qu'en général, vous commencez par le décapage, c'est ça qu'on appelle
Voilà, en général, donc on a une zone qui est prescrite et on doit ouvrir tant de mètres carrés sur tant de mètres carrés du projet.
Donc là, c'est à l'engin de chantier. Hein,
là, on y va à l'appel mécanique. Donc en général, c'est des 20-25 tonnes avec des codettes de 3 mètres. Et donc, on enlève tout ce qu'on appelle la terre végétale ou les stériles et on s'arrête sur les premiers niveaux archéologiques.
En général, c'est quelle profondeur ? Enfin, là,
en moyenne, c'est entre 40 et 50. Mais ça dépend du terrain. Vraiment, oui. On peut avoir des colluvions. Donc des fois, on peut descendre à 1 mètre, 30, 80. Enfin, c'est vraiment variable. Mmh. J'ai fait d'autres chantiers où il y avait seulement 5 cm à enlever. Hein,
et... D'accord, ouais. Et donc après, vous passez au détail. Et alors, quand même, si c'était argileux au Poulpris, est-ce que ça a aussi des avantages en termes de conservation de certains matériaux, justement ? C'est ça, non ?
Ben non, pas du tout.
Ah, bon ? Ah bah ça, alors je suis déçue.
Non, en fait, au Poulpris... Les vestiges n'étaient pas super bien conservés, mais ils avaient le mérite d'être là, sauf les structures de combustion.
D'accord.
Qui, elles, étaient beaucoup plus profondes, et du coup, on survécu à tout ce qui était labour, etc.
D'accord, donc on va en reparler. Juste avant d'aborder le Moyen-Âge, il y avait des traces d'occupation antérieures quand même au Poulpris, lesquelles ?
Oui, j'ai une petite fosse à l'intérieur duquel il y avait deux petits vases en fait, du néolithique. De la préhistoire.
Ah ouais. Et quand on dit petite fosse, c'est pareil, c'est toujours l'histoire d'un mur ou d'une d'une fortification.
Non, du tout. C'était vraiment, faut imaginer un trou à l'intérieur duquel il y avait des petits vases qui étaient là.
Une sorte de poubelle éventuellement.
Alors là, je peux pas vous dire.
Ouais. C'est pas marqué, bien sûr.
Non.
D'accord. Alors le Moyen Âge, donc votre période, évidemment. Qu'est-ce que vous avez donc trouvé ?
Alors en Poulpris, du coup, on a trouvé donc encore une fois un espace enclos. Donc beaucoup moins important que celui de Ploudaniel, hein, parce que les fossés font que 50 cm de large pour entre les maximum 20 et sinon c'est 2 cm de profondeur.
L'ennemi était moins dangereux sans doute.
Donc c'est plus pour délimiter que pour protéger. Donc toujours pareil, hein, donc un fossé qui, voilà, il n'est pas circulaire, il est plutôt rectangulaire ou trapézoïdal même, donc qui enclos. Une zone artisanale, enfin. Voilà.
Quand il y a un fossé, il y a forcément une palissade qui va avec.
Pas forcément, en fait. Faut imaginer les fossés parcellaires qu'on peut avoir chez nous. Hein, donc,
ah oui, d'accord.
C'est notamment le cas peut-être à Poulpris.
Peut-être de l'écoulement d'eau, alors tout simplement.
Oui, ça peut,
aussi.
Être, ça peut ah, être du drainage, ça peut être de la limite. Voilà. En général, quand il y a des, quand il y a une clôture, on retrouve les poteaux, enfin les trous de poteaux qui vont avec. Donc ça, on peut le mettre en évidence.
Donc le fossé est derrière.
Donc le fossé, il est divisé. Enfin, donc l'espace à l'intérieur du fossé est divisé en deux parties. Il y en a une où il y a quasiment rien. Donc on peut imaginer un champ, un pâture ou tout autre. Par contre, l'autre côté, donc la partie est de l'enclos, lui est relativement riche en structures anthropiques. Donc notamment encore une fois des trous de poteaux qui délimitent en fait, qui dessinent les plans de plusieurs bâtiments. Donc avec des foyers domestiques et surtout en fait deux zones avec des fours en fait avec des fosses ce qu'on appelle des fosses foyers.
Alors comment est-ce qu'on distingue un foyer domestique et un foyer professionnel entre guillemets à l'œil nu comme ça
par la taille.
Ah ouais.
Souvent par la taille et par l'intensité de la ce qu'on appelle la rubéfaction qui est à l'intérieur et souvent par les matériaux qu'on retrouve aussi retrouve dedans.
Et donc ces foyers donc de, d'artisanat peut-être, enfin on ne sait pas, qu'est-ce qui, comment est-ce qu'ils sont caractérisés, enfin d'après les trous de poteaux, enfin les traces au sol, qu'est-ce qu'on peut imaginer de leur forme ou de leur
Alors les foyers là ils sont un peu multiformes. En gros j'ai à l'intérieur de l'enclos j'ai une zone au sud-ouest qui elles sont des foyers de forge. Ça j'en suis quasiment certain maintenant.
Pas tout à fait quand même.
Ah ouais. Bah il y a toujours un doute, même ouais. Si on peut dire
le définir. C'est parce qu'on retrouve des scories métalliques ou des choses comme ça, je suppose.
Ouais, ouais. J'en ai retrouvé pas mal, mais par rapport à d'autres sites comme Guavaria, en fait, dans le 56, en fait, c'est relativement réduit. C'est-à-dire que eux, ça se calcule en tonnes, moi, ça se calcule en kilos, donc c'est pas tout à fait pareil.
Et quel métal on forgeait en général ?
Bah là, c'est du fer. D'accord. C'est des scories de fer. Mais j'ai plein de culots de forge, en fait, donc c'est le déchet de quand on tape le métal.
Mais en fait, moi, ce que je, à force d'écouter les archéologues comme ça, surtout médiévistes, enfin, j'en déduis que finalement chaque site un petit peu peuplé avait sa forge. Enfin, forcément, en fait.
Bah, oui, parce que là, si on part du principe qu'on est sur un enclos qui pourrait être une petite ferme, hein, je ne sais pas, parce que j'ai pas de silo à grains, etc. Donc voilà, il y a forcément un atelier pour faire des clous, refaire les fers à chevaux, les outils, etc. Donc là, je pense qu'on est plutôt sur quelque chose comme ça, oui.
Donc, un foyer de forge et d'autres foyers encore.
Et alors, l'autre foyer, c'est ce que j'appelle des charbonnières.
Ah.
Donc, c'est des fosses qui sont faites pour fabriquer le charbon qui sert à alimenter la forge.
Comment est-ce qu'on fabrique du charbon au Moyen-Âge ?
Au Moyen-Âge et même avant. Ouais. Et puis après.
Charbon de bois, bien sûr.
Charbon de bois. Ouais. En fait, on fait des tas de bois et on y met le feu. Et puis, il ne faut pas tout brûler. Et il faut l'éteindre. Enfin, il s'éteint tout seul, des fois. Pour fabriquer le charbon.
Et c'est couvert, enfin, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser la combustion?
C'est assez délicat, mais souvent, ça peut être couvert, donc c'est des petites fosses rectangulaires ou carrées, c'est recouvert, et puis en fait, le feu est asphyxié en fait, à un moment donné, et des fois c'est en meule, donc là on met le feu un peu comme un feu de joie, là, et c'est juste qu'il faut le stopper au bon moment.
Mm-hmm. Et donc ça servait, enfin on en faisait du charbon de bois qui servait après pour plutôt la domesticité, enfin on ne sait pas.
Là je pense que c'est vraiment pour alimenter les foyers de forge.
D'accord. Donc ce qui est intéressant dans ces foyers-là, c'est l'anthracologie, c'est les charbons justement, vous avez pu les étudier, enfin les faire étudier en l'occurrence.
Oui, oui. En fait c'est pour ça que je parle de charbonnière et de foyer de forge, c'est parce que j'ai fait étudier du coup... donc les charbons par des spécialistes, donc des anthracologues. Et donc en fait, ces personnes-là, ces études-là, me permettent de savoir quelles essences de bois étaient utilisées. Et du coup...
quelle gestion forestière,
voilà,
en gros,
quelle gestion forestière
avaient,
quoi, et à quoi ces bois sont habituellement... destiné.
Ça, c'est ce type d'études, on la fait pas systématiquement, enfin, j'imagine, quoi. Donc, vous l'avez commandé parce que vous aviez.
En fait, il y a une première étude qui avait été faite lors du diagnostic, donc dirigée par Anne-Louise Amon, et donc dans un des foyers de forge. Et donc, j'ai voulu faire la même chose, mais dans les foyers charbonnières. Et il se trouve qu'en plus, donc ça, couplé à mes datations carbone 14, m'a permis de créer un lien en fait que je supposais, mais aujourd'hui il est beaucoup plus sûr entre ces deux zones de foyer. Donc non seulement la datation qui est quasiment la même à 8 ans près. J'ai une récurrence en fait de 3 dates à chaque fois, donc c'est 771 qui revient sur 3 datations différentes dans 3 fosses différentes et dans ces deux zones de foyer et l'étude anthracologique donc de la phase de diagnostic qui correspond en fait à celle que j'ai réalisée à la fouille mais dans les fosses de charbonnière. Donc c'est potentiellement le même bois.
Et c'est surprenant comme utilisation du bois, justement.
Voilà, ce qui est surprenant, c'est que habituellement, pour ce genre d'activité, on utilise ce qu'on appelle les ajoncs et genêts, donc les plantes arbustives, pour alimenter, enfin pour débuter le feu, parce que c'est des plantes qui vont brûler très vite et qui ont une valeur calorifique assez intense au début. Et ensuite, pour entretenir un feu de forge, il faut des bois autres, donc durs, comme le chêne. Donc en général, on a une proportion genêt-chêne qui est, on va dire, 5% de genêt et 95% de chêne. Et là, c'est complètement l'inverse.
Donc
donc c'est assez exceptionnel, parce que le seul exemple qu'il y a pour ce type d'activité à cette époque-là et des proportions de ce type-là se trouve au Vallon du Fou, en fait, dans le midi de la France.
Oui, c'est pas chez nous. Hein.
Non, c'est pas du tout chez nous.
C'est pas le fou de chez nous.
Et donc, ça pose plein de questions.
Ah bah oui, là, vraiment.
Voilà, donc bon, après, on est en bord de mer, donc le bois qu'on a aux alentours et sur les haies, etc., c'est des arbustes, donc c'est souvent du genêt et puis des ajoncs, donc on utilise un petit peu ce qu'on a sous la main. On peut imaginer qu'on a un paysage qui est taluté avec ici et là un chêne, donc on l'utilise parce que c'est celui-là qu'on a sous la main. Ça peut aussi avoir une autre implication, c'est-à-dire que peut-être que les habitants donc, de l'enclos de Poulpry n'avaient pas la ressource chêne à disposition, soit parce qu'à l'époque gallo-romaine, ils ont tout exploité, du coup il n'y a plus de forêt. Et on se retrouve sans bois, donc on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire que bah, les petites plantes de bord de mer. Ou soit c'est parce que en fait, les forêts sont contrôlées par un pouvoir beaucoup plus puissant, et du coup on n'y a pas accès non plus, parce que c'est pas à nous.
Et là, il n'y a pas une hypothèse qui peut l'emporter sur l'autre pour l'instant.
Bah, là, il faudrait faire une étude historique un peu plus approfondie du secteur, hein, pour peut-être esquisser un début de réponse.
Et que c'est en 771, c'est ça que vous disiez, enfin, en gros,
oui, ça, ouais. Mes datations, ouais, c'est 771.
Et qu'est-ce qu'on sait quand même, de, bah, par exemple, du climat, parce que ça pourrait être aussi pour des raisons climatiques. Enfin, est-ce qu'on sait des choses là-dessus?
Le climat, il est à peu près le même que celui qu'on a aujourd'hui.
Il n'y avait pas de petit âge glaciaire ou de sécheresse?
Non, le petit âge glaciaire, c'est au XIIIe siècle.
Ouais, ouais. D'accord. Donc, c'est ça. Vous ne pouvez pas savoir, en fait, mais c'est intéressant d'avoir cet exemple-là sur l'usage des bois.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, vous avez trouvé d'autres vestiges, hein, des céramiques peut-être ou des,
Alors oui, j'ai un petit... En fait, pour ces périodes-là, il y a souvent très peu de mobilier céramique. Et là, il se trouve que j'ai quasi exclusivement un type de céramique qu'on appelle onctueuse, donc qui est proprement finistérienne. C'est-à-dire qu'à la place de mettre du sable ou dans l'argile pour monter le pot, en fait, on met du talc. Du coup, ça la rend toute douce, etc. Mais donc ça, c'est nul pour aller chercher de l'eau, tout ça. Par contre, ça a un pouvoir de résistance au feu qui est assez considérable.
Et du talc qu'ils trouvaient sur place,
Alors ça, sur place, je pense pas.
Ah non,
il y a des ateliers, mais on les connaît pas.
D'accord, ok. Et donc, par contre, l'intérêt, vous disiez
L'intérêt, c'est sa résistance au feu. Donc en fait, trouver autant de poteries réalisées en pâte onctueuse sur un atelier donc dévoué à la forge, donc avec des foyers ici et là, c'est pas très étonnant, mais c'est quand même important, parce que cette céramique, elle n'est pas très très bien datée. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle apparaît à la fin du Xe siècle, mais elle perdure au moins jusqu'au XVIIIe. On n'a pas les ateliers, et la seule source de comparaison qu'on a, c'est l'abbaye de Landévennec, où une étude un peu plus poussée permet de faire quelques datations, plus les recherches qui ont été faites donc les années passées sur Quimper, sur les fouilles de Quimper.
Et sinon, on peut supposer quand même... Imaginez à quoi elle servait, cette céramique
C'est des pots à tout faire. Hein. On va du simple pot à cuire à la galetière.
La fameuse galetière, oui.
Ouais.
D'accord, donc ça c'était assez spécifique aussi de Poulpry.
Oui, c'est-à-dire que j'ai quasiment pas d'autres types de céramique.
Bon, Ils n'allaient pas chercher d'eau, ces gens, alors.
Bah, ou autrement.
Autrement.
Ou ouais. Alors, j'ai tout simplement pas retrouvé les Pokémon.
Oui, c'est ça voilà. Aussi, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, sur le site, qu'est-ce qu'on sait des environs au Moyen-Âge, à cette période, si on sait quelque chose hein,
Bah, c'est assez lacunaire. Comme je vous le disais en début d'émission, c'est que l'archéologie préventive dans le secteur, enfin l'archéologie préventive tout court, c'est assez récent, ça date de 2001. Et on va dire que Bénodet s'est développé très rapidement entre les années 80 et 90, et donc sans archéologie préventive. Et donc aujourd'hui, je pense que les informations qu'on peut glaner ici et là se retrouvent dans les rares parcelles qui restent encore... à bâtir.
Et il y aurait donc encore des fouilles possibles à Bénodet pour en savoir plus sur le contexte.
Là, je viens juste d'en terminer une, donc juste en face de celui dont je vous parle. En fait, j'ai la fin du site, voilà, de l'autre côté de la parcelle, enfin de la route, donc à côté de la salle de sport.
Ouais. Et alors, il n'y a pas de surprise ?
Il n'y a pas de surprise. Il y a quelque chose que j'ai compris grâce à cette fouille, que je n'avais pas compris lors de la première phase, c'est que j'ai peut-être un chemin qui est beaucoup plus ancien, sur lequel vient s'appuyer en fait l'enclos médiéval, et qui pourrait être transition gaulois-antiquité, mais bon, ça reste
ancienne
encore...
Ancienne voie romaine, éventuellement. Quoi.
Bah, ouais. Peut-être pas une voie, mais au moins un chemin.
D'accord.
Après, voilà, ça reste encore à déterminer.
Bon, eh bien, vous reviendrez, je pense. Ce serait la punition.
Pas de souci.
Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, Johan Dieu. Et puis, merci au Centre départemental d'archéologie de nous faire voyager comme ça dans le passé à chaque fois. À bientôt.
À bientôt.